Donc, bonsoir, on est ravis d'accueillir Hélène Frappa pour le dernier fleuve aux éditions Actes Sud. Hélène, vous êtes écrivain, traductrice, critique de cinéma, vous êtes réalisatrice de documentaires, vous êtes multicasquette. Vous êtes avec nous ce soir donc, pour votre dernier roman, le dernier fleuve aux éditions Actes Sud. Le dernier fleuve, c'est l'histoire de Mo et Joe, ces deux petits frères qui avancent vers nous comme une vision. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas vers où ils vont, on a juste la sensation qu'ils sont seuls, peut-être seuls au monde, les premiers ou les derniers êtres humains. Donc ce fleuve qui est au cœur du roman, ce fleuve qui, on va l'apprendre assez vite, est leur destination, et qui est donc ce dernier fleuve qui est au cœur du récit. Le dernier fleuve est-il un personnage du roman? L'avez-vous considéré comme un personnage du roman dans l'écriture?
Oui. Ça, pour le coup, je savais dès le début que le personnage principal du livre serait le fleuve, serait un fleuve, le fleuve. Et même, d'une certaine manière, pendant longtemps, ce qui a fait que j'ai mis du temps à commencer vraiment à écrire, parce que je cherchais la forme et j'avais du mal à la trouver, c'est que j'aurais presque voulu que ce soit le fleuve qui écrive le roman lui-même, en fait, que ce soit le plus encore que le héros du livre, enfin, le personnage principal du livre, son narrateur même, que ce soit la voix du fleuve qu'on entende. En fait. Et c'est, alors, c'est votre question qui m'y fait penser. Je ne me suis pas dit ça exactement consciemment, mais ça a peut-être à voir avec l'extrême fluidité que j'ai recherchée dans l'écriture. Mmh. En fait, il fallait qu'il y ait quelque chose de liquide en fait, dans la narration, dans le récit, que ça se lise comme ça, comme on est, comme quelqu'un qui entre, comme si le lecteur entrait dans l'eau et ensuite était emporté par les flots.
Mais on est complètement emporté. Et ce fleuve, je sais qu'il vient d'une vision personnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire où est né ce fleuve dans votre esprit et pour le livre?
Alors, il est né en fait de mon livre précédent qui s'appelle N'oublie pas de respirer, qui a été publié dans la collection Essence chez Actes Sud. C'était une commande en fait au départ qui m'avait un peu désarçonnée, puisqu'il s'agit d'une collection sur la mémoire olfactive, enfin l'expérience. L'expérience qu'un parfum peut procurer. Bon, moi, je n'avais pas particulièrement de relation forte au parfum et en même temps, quelque chose m'intéressait là-dedans. Et finalement, j'ai fini par me dire que la seule expérience forte d'odeur, de parfum que j'avais eue dans ma vie, c'était l'expérience du maquis en Corse. Et donc, ça m'a amené, ce qui n'était pas du tout mon intention au départ, à écrire un livre sur la Corse, qui est le pays de ma mère, et à essayer de me livrer à une évocation de l'enfance de ma mère. Il se trouve que c'était une enfance donc, dans le sud de la Corse, une région extrêmement sauvage, très, très désertique, très sauvage, qui était dominée par un fleuve, une rivière en fait, mais il se trouve qu'en Corse, avec cette espèce de langue un peu mythologique, on dit aller au fleuve. C'est pas des fleuves, souvent c'est des torrents. Mais donc voilà, et j'ai, en interrogeant ma mère, je m'étais rendu compte finalement que, en tout cas, je m'étais pas rendu compte, mais j'avais eu cette vision de l'enfance de cette petite fille au milieu de cette tribu d'enfants, de frères et sœurs orphelins, relativement abandonnés à eux-mêmes comme des enfants sauvages et qui avaient été littéralement élevés par un fleuve, un peu comme Rémus et Romulus ont pu être élevés par un fleuve, hein, aussi, comme Moïse surtout, qui m'obsédait beaucoup, a pu être recueilli par un fleuve. Et en même temps, ce fleuve Corse, c'était un fleuve que je connaissais bien pour l'avoir connu pendant les étés que je passais là-bas. C'était un fleuve qui était autant nourricier que dangereux. Enfin, il pouvait tuer autant que sauver des enfants. Et donc, tout est parti de là, en fait, de la vision de ce fleuve très ambivalent, qui peu à peu s'est détaché de ce fleuve originel qui était en Corse, pour devenir n'importe quel fleuve, dans n'importe quelle partie du monde, et puis pour devenir finalement le seul fleuve, et même le dernier fleuve.
Et donc, justement, cette notion du dernier fleuve, je crois que c'est quelque chose qui est venu à la fin de la rédaction du livre.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, entre le moment où j'ai commencé à concevoir le livre et puis le moment où j'ai commencé à l'écrire et la fin de la rédaction, plusieurs années se sont écoulées. Et durant ces années, il y a eu vraiment un phénomène mais que tout le monde a ressenti d'accélération historique et notamment de enfin, je ne pouvais pas allumer la radio sans entendre parler de l'extinction de certaines espèces, des oiseaux qui disparaissaient, etc., du réchauffement climatique, des fleuves, de certains fleuves que j'avais pu connaître qui littéralement s'évaporaient, qui perdaient leurs affluents, etc. Et donc, peu à peu, enfin, pas peu à peu, enfin, disons, cet environnement s'est infiltré littéralement dans le récit. Il s'est mis à menacer le récit lui-même et ses personnages, jusqu'à ce que, à la toute fin de l'écriture du livre, j'ai en entendant parler de la sixième extinction d'espèce, etc., me vienne comme une évidence ce titre, Le dernier fleuve. Titre en plus qui dispense beaucoup d'explications, parce que c'est vrai qu'un lecteur qui ouvre un roman qui s'appelle Le dernier fleuve, d'une certaine manière, il a déjà une idée derrière la tête.
Mais c'est ça, en fait. Il y a plein de choses dans ce livre qui ne sont pas dites, qui sont suggérées, qui laissent le lecteur à l'imagination. Il y a plusieurs choses qui pourraient faire penser que ce livre est presque un conte, puisqu'effectivement, il y a une dimension un peu de l'étrange, il y a une dimension de l'inexpliqué, puis il y a ces enfants qui sont au cœur du livre. Est-ce qu'on peut imaginer alors que c'est un conte, effectivement ?
Je pense que c'est une forme... Je ne sais pas à quoi ressemble cette forme. Beaucoup de lecteurs m'ont dit qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils lisaient, en tout cas dans la fiction française. Moi, j'ai cherché à donner forme au fleuve. C'est la seule chose que j'ai cherchée. Voilà. Si j'ai eu une intention, c'était de donner forme à ce fleuve dans l'écriture et d'accueillir un fleuve, ce royaume de l'eau, de faire entrer ce royaume de l'eau dans l'écriture. Après, la question du genre, moi, c'est une question qui ne m'intéresse pas, la question du genre, parce que je ne crois pas au genre, en fait. Enfin, c'est-à-dire, je sais qu'il existe des genres, mais je ne crois pas aux frontières de genre. Donc, ça peut être un conte. Il y a des éléments du conte, ça, certainement. Il y a des éléments même presque bibliques, pour autant que j'ai lu la Bible, ce qui n'est pas tellement le cas. Mais c'est vrai que j'ai reconnu, parce que tout le monde l'a lu, même sans l'avoir lu, disons, des éléments mythologiques. Mais ce qui gouverne, c'est le fleuve. Je savais qu'en écrivant, à chaque fois que je m'éloignais du fleuve, je partais dans une mauvaise direction. Donc, je devais. La seule chose que j'ai eue en tête, au bout d'un moment, c'est de rester. Enfin, il y avait deux choses finalement qui me sont apparues petit à petit, qui étaient rester avec le fleuve, ne jamais trop m'éloigner du fleuve, et puis toujours être à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que l'écriture devait être gouvernée par le regard des enfants. Alors, ce n'est pas du tout un livre pour enfants. D'ailleurs, les contes ne sont jamais... Enfin, les contes, si on pense aux contes historiques comme ceux de Perrault ou de Grimm, ce n'est pas vraiment des... Enfin, ils sont terrifiants, en général. Hein. Il s'y passe des choses effroyables. Mais bon, donc, c'est pas pour enfants. Néanmoins, c'est à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que chaque mot doit... résonner dans la tête de l'enfant, doit être choisi comme s'il était perçu à hauteur du regard d'un enfant.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Mo et Joe? Qui sont-ils? Donc Mo, c'est le grand frère, Joe, c'est le petit frère. C'est eux quand même qu'on va suivre tout au long du roman, même si d'autres personnages vont venir les rejoindre bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces deux frères?
Alors, il y a effectivement un grand frère, un petit frère. Pourquoi j'ai eu... ça fait un moment que je suis assez fascinée par les fratries. J'ai commencé à m'intéresser à ces... Moi, je suis enfant unique, je n'ai pas eu de frères et sœurs, mais c'est vrai que je trouve que c'est un phénomène assez fascinant. En particulier quand j'ai créé mon troisième roman qui s'appelle Par effraction, où l'un des deux personnages principaux est une petite fille télépathe qui a des pouvoirs télépathiques. Je m'étais pas mal intéressée aux jumeaux. Qui sont réputés avoir des liens, des connexions télépathiques, comme d'ailleurs, c'est l'objet d'un très très beau roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle Les Frères Corses, qui parle justement de ce lien télépathique qui relie deux frères. Et puis dans Lady Hunt, un précédent roman, il y avait deux sœurs aussi qui étaient elles-mêmes reliées par une espèce de malédiction familiale. Mais c'est vrai que des petits garçons, je n'en avais jamais fait les personnages de mes livres, mais à partir du moment où on est deux, d'une certaine manière, je me dis maintenant, bon, je me disais pas ça en l'écrivant, mais je me dis maintenant, il faut être deux pour qu'un livre existe. Il suffit d'être deux. Bon, Lénine disait, il faut être deux pour changer le monde. C'est peut-être la même chose. Tout commence quand on est deux. Le récit, l'histoire commence quand on est deux. Et je suis assez convaincue d'ailleurs que, comme disait Jean Renoir, ce sont les spectateurs qui finissent les films. Je pense que ce sont les lecteurs qui finissent les films. Donc peut-être, voilà, il y a cette question-là. Je ne sais pas, il fallait qu'ils soient deux. On ne sait pas ce qui se passe avant, c'est-à-dire on ne sait rien de leur famille. Moi-même, je ne sais pas, d'ailleurs. On ne sait rien de leur famille, on ne sait pas s'ils sont orphelins, d'où ils viennent, etc. Mais on sait que tout va se jouer dans leur relation à eux deux, avec ce grand frère qui a cette dimension assez protectrice, mais pas seulement. Tout va se jouer aussi dans le fait que ces enfants, donc ils grandissent et puis ils grandissent un peu en accéléré.
Les rapports vont changer entre eux.
Les rapports changent entre eux, ouais.
Donc, il y a ces deux personnages, donc Mo et Joe, ces deux enfants qui vont donc être rejoints par d'autres personnages qui vont constituer le peuple du fleuve. Et quand même, parmi ces personnages, c'est beaucoup d'enfants. Et donc, il y a comme ça un aspect, un rapport à l'enfance qui est très fort dans le livre, un rapport à l'enfant sauvage, ce que vous évoquiez pour écrire d'où venait l'idée du fleuve de votre enfance en Corse. Ce peuple du fleuve, il est très intéressant parce qu'on le découvre au fur et à mesure. Et en fait, il va former une communauté, en fait, finalement. C'est quand même le point de départ d'autre chose.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Au début, ces enfants se croient seuls au monde. Et même, ils espèrent être seuls au monde. On sent qu'ils sont peut-être sous le coup d'une certaine menace, en tout cas d'une peur, et que ça les rassure de trouver un toit, alors qu'ils n'ont pas de toit, ils marchent depuis des semaines, peut-être des mois, quand le livre commence, et que donc ils s'écroulent littéralement de fatigue, et que ça commence comme ça, impossible d'aller plus loin. Il faut qu'ils dorment, et puis il faut qu'ils trouvent à manger. C'est la question de la survie. Mais très vite, des personnages surgissent qui, pour eux, au départ, sont des menaces. Surgissent de l'eau, par exemple, une femme que j'appelle
Gorgone.
Voilà, une gorgone, une femme assez effrayante, qui a l'air d'être une créature de la mer égarée dans un fleuve, qui ressemble un peu à une espèce d'énorme poulpe. Enfin, elle n'est pas du tout énorme, mais elle s'agite et on se rend compte qu'elle a une espèce de meute d'enfants accrochés à elle, etc. Et puis, de plus en plus, comme s'ils sortaient de la brume, d'autres personnages surgissent qui vont être, comme vous le dites, en effet, le peuple du fleuve. Alors, est-ce que ce sont des réfugiés? Certains vivent dans les grottes. Est-ce qu'ils se sont réfugiés là aussi pour se nourrir? Voilà, il y a des liens se créent. Avec beaucoup d'enfants. Alors pourquoi des enfants? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je cite au début une phrase de Henry David Thoreau que je trouve très belle, que j'ai coupée d'ailleurs, qui est beaucoup plus longue en fait, où il dit « Tout enfant recommence le monde ». C'est vrai que l'enfance, c'est ce moment où tout ce qui est vécu pour la première fois, où tout ce qui est vu pour la première fois, où tout ce qui est ressenti pour la première fois. Et donc, il s'agissait de retrouver... Alors, quand on écrit, on est en... Je pense, enfin, si, on devrait en tout cas être connecté, avoir... Pour le coup, l'enfance, c'est la source. C'est la source pour tous les êtres humains, en fait. Mais c'est vraiment la source. C'est celle à partir de laquelle on écrit. Il s'agissait de faire renaître dans chaque lecteur cette source pour qu'il se remette dans cette situation, dans cette sensation, dans ce sentiment que les adultes ont tendance ensuite à oublier quand ils s'exilent de leur enfance, qui est ce moment, alors qui peut avoir à faire avec l'émerveillement, mais aussi avec la peur, aussi avec la surprise, ça peut être drôle aussi, de voir quelque chose comme si à chaque fois c'était quelque chose d'étrange, d'étranger, une grenouille qui peut paraître énorme, une tortue qui ressemble à une pierre sur laquelle on pose son pied, enfin voilà, tout, la mort d'un oiseau, qui paraît être la plus grosse tache de sang que les enfants aient jamais vue. Voilà, donc tout est vu absolument comme pour la première fois.
Vous dites, vous avez dit quelque chose dans une précédente émission où vous sentiez une responsabilité à l'égard de vos personnages.
Oui, bah en fait, c'est la base. Hein. C'est-à-dire que... Alors, c'est assez... mon éditrice me faisait remarquer sardoniquement et tout à fait à juste titre que dans le livre, c'est un peu ambivalent parce que d'un côté, il s'agit de survie, comme je disais. Donc, il faut les nourrir, ces enfants. Il faut les nourrir. Donc, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai pas mal dû apprendre la pêche, que j'ignorais complètement. D'ailleurs, aussi bien à travers une amie qui connaissait mieux la pêche que moi et qui est d'origine de Bordeaux et qui d'ailleurs m'a donné m'a appris beaucoup de choses sur les aloses, par exemple, qui sont, voilà, et qui sont des poissons, je sais, qu'on trouve dans la région, là, qui ont beaucoup d'arêtes. Donc, comment on peut les faire cuire avec de l'oseille pour que les arêtes fondent, etc. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, très concrètes, mais qui font partie de l'écriture de chaque livre, en fait, hein, que je devais apprendre parce qu'il fallait y croire. Je veux dire, il fallait que moi, j'y croie d'abord, mais il fallait que le lecteur y croie. Donc, il fallait que ces enfants puissent se nourrir en apprenant tout, en apprenant à nager, en apprenant tout de la pêche, etc. Et c'est vrai que je cite souvent Stephen King, qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui, dans un très beau livre qui s'appelle « Écriture, mémoire d'un métier », parle justement de ce que c'est qu'être écrivain. Et il dit, en effet, que pour lui, les personnages du romancier sont comme des... C'est comme s'ils étaient à la cave. Alors, la cave, pour lui, c'est une image de... C'est l'image de l'imagination, en fait, du laboratoire mental de l'auteur. Et puis, ils sont là, et puis, ils crèvent de faim dans cette cave. Parce que si on ne vient pas les nourrir constamment en écrivant, ils vont littéralement mourir de faim. Et les nourrir, c'est continuer à écrire, en fait. C'est chaque phrase qui va... ils sont suspendus à ces phrases qu'on écrit. Bon, en même temps, comme mon éditrice me le faisait remarquer, ces personnages du livre affrontent un certain nombre de dangers, ouais. Bon, jusqu'au danger final, qui fait que l'auteur les nourrit, mais il peut les tuer aussi.
Ouais. Hein,
donc c'est très ambivalent, un auteur vis-à-vis de ces créatures.
Et cette responsabilité-là, elle est différente à partir du moment où ces personnages-là, enfin vos personnages principaux, ce sont des enfants ?
Alors, elle est... Peut-être la différence, c'est que... Alors, il y a une différence. Moi, j'ai des enfants et... Mais d'une certaine manière, je me demande si ce ne serait pas la même chose pour n'importe quel auteur, qu'il ait ou pas des enfants. Sans doute que l'enfant nous place face à un sentiment... l'enfant radicalise l'expérience, d'une certaine manière. C'est-à-dire aussi bien dans la joie que dans le tragique. Je pense que quand on écrit, il faut oublier par moment qu'on a des enfants. Parce que sinon, si on a le sentiment que nos enfants regardent par-dessus notre épaule et lisent, ce qu'on écrit, il peut y avoir un phénomène de censure qui s'exerce, à mon avis, plus avec l'enfant. Ça marche aussi avec les parents, en fait. C'est la question de la censure, en général. Donc il ne fallait pas penser à ça. Mais sans doute, oui, c'est une forme d'exacerbation comme c'est le cas dans... Alors, je vais donner un exemple parfaitement tragique, qui est l'exemple d'un film de Rossellini qui s'appelle... Almania né zéro. Dès qu'il s'agit, par exemple, de la mort d'un enfant, les choses sont tout de suite beaucoup plus violentes et beaucoup plus inhumaines. Mmh. Enfin, on est aux limites de on est vraiment dans ce que c'est que l'être humain. Aussi bien dans ce que c'est que donner un nom à un être humain. La question du prénom, il y a une petite fille dans le livre qui ne sait pas comment elle s'appelle. Alors, du coup, moi, je l'appelais sans nom jusqu'au moment où... Un adulte du peuple du fleuve décide qu'il faut la baptiser, donc elle va se trouver un nom de poisson en l'occurrence. Aussi bien dans les dangers que ses enfants vont rencontrer, aussi bien dans l'éveil à la sexualité aussi, le corps qui change, la mue du corps, etc. Enfin, toutes ces expériences qui sont exacerbées dans l'enfance.
Justement, vous parlez donc de son nom. Il y a trois... voire quatre, mais disons trois personnages féminins très importants dans le livre et qui sont très importants pour Mo et pour Jo. C'est la sorcière de l'île, c'est la belle dame et c'est donc son nom qui va devenir vive. Est-ce que vous pouvez... Elles incarnent quelque chose de très fort, en fait, et dans le livre et pour les garçons, non ? Enfin, elles sont un symbole de quelque chose de très fort, chacune à leur manière, non ?
Elles sont apparues pour moi comme des visions. Après, il y a presque aussi, c'est vrai, alors ça a peut-être à voir avec le conte, il y a presque des archétypes. C'est vrai que j'ai vu beaucoup ou revu de films de fleuves en écrivant ce livre. Alors, j'ai connu des fleuves aussi. Dans les fleuves, il y a souvent une île. Donc, c'est vrai que quand il y a une île, il faut qu'il y ait une habitante. Enfin, j'ai pensé à cette habitante de l'île, qui est une sorcière plutôt gentille, mais qui a des pouvoirs magiques. Bon, mon livre précédent, N'oublie pas de respirer, qui se passait encore, c'était peuplé de sorcières, parce que c'est un territoire avec beaucoup de sorcières, donc c'est un personnage qui m'est assez familier, la sorcière. Je n'emploie pas du tout le terme sorcière dans un sens péjoratif, mais dans un sens plus chamanique, des pouvoirs de la nature, quelqu'un qui sait, qui ne s'approprie pas ses pouvoirs, qui ne va pas contre eux, mais qui sait les dompter en quelque sorte et s'en servir. La belle dame, en fait, pourquoi la belle dame ? Parce qu'en fait, c'est une femme qui est une jeune mère qui apporte à manger à ses enfants, et en fait, mais sans se faire voir, en se cachant, en cachette, au début. Et le plus petit, Joe, le plus petit des frères, fait cette déduction, mais d'enfant, en fait, que nécessairement, c'est une dame. Probablement parce que pour lui, c'est une sorte de figure maternelle. On ne sait pas s'ils ont une mère ou pas. Bon. Donc, si quelqu'un leur apporte à manger, ça doit être une dame. Elle est gentille puisqu'elle leur a apporté à manger, donc elle est belle, en fait. Ce que exactement un enfant pourrait penser. Mmh. Je pense que les adultes arrêtent de penser que parce qu'on est gentil, on est beau. Mais pour un enfant, voilà, il y a quelque chose qui va... C'est une main qui lui a tendu à manger, donc c'est quelqu'un de gentil. Le troisième personnage, c'était
Vive.
Oui, Vive, c'est une vraie créature de l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'elle est... c'est cet enfant sans nom qui est vraiment... Alors là, pour le coup... qui est la vraie enfant sauvage, qui surgit de l'eau et qui a cette espèce de paradoxe que j'ai pas pensé avant, mais dont je me suis rendu compte en écrivant, qui est qu'elle n'a pas de nom, elle n'a pas de prénom, elle ne sait pas comment elle s'appelle. Et en même temps, elle connaît tous les noms. Elle a une science encyclopédique des noms, alors qui sont les noms des plantes, les noms des poissons, surtout les noms de l'eau. Elle connaît les noms, elle connaît les propriétés des poissons. Et elle va en effet transmettre à ses enfants... cette technique de survie qui est la pêche, elle va leur apprendre comment pêcher, et elle va les initier, elle va apprendre aussi aux grands mots à plonger sous l'eau. Elle va les initier à ce royaume souterrain. Et c'est pour ça qu'elle est en quelque sorte l'apprentie, c'est une sorte d'apprentie sorcière elle-même, parce qu'elle est, elle est une créature du fleuve.
Vous avez dit tout récemment, donc je le sais maintenant, qu'on ne doit pas parler d'inspiration ou d'intention, puisque c'est toujours... vous parlez vraiment de vision quand vous parlez de l'écriture de vos livres et de ce livre-là en particulier. Mais de quoi s'est nourri votre esprit pour, au-delà de l'histoire personnelle liée au fleuve, de quoi s'est nourri ce livre dans l'écriture, parce que moi, ça m'a fait penser évidemment à beaucoup de choses. Déjà, la quatrième de couverture fait référence à Twain. Moi, j'ai pensé également aussi à un texte plus récent, enfin, qui est paru plus récemment en France, qui s'appelle Dans la forêt de Jean Egland, où on suit là deux sœurs dans une forêt californienne. Enfin, voilà, alors effectivement, je pense que c'est une transformation de ma part, mais par quoi étiez-vous habité, que ce soit en termes de livres ou de films, pour l'écriture du Dernier Fleuve ?
Alors j'ai été étrangement, finalement, assez peu habitée directement. Alors j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films, et puis je lis beaucoup, et je vois beaucoup de films, mais j'étais moins habitée par des films ou des livres précis. Et ce que je trouve assez fascinant d'ailleurs depuis que le livre est sorti, c'est de voir que beaucoup de lecteurs le rapprochent de livres, par exemple comme celui que vous venez de citer, Dans la forêt, que je n'ai pas lu, dont j'avais entendu parler à la fin de l'écriture, mais c'était trop... ça paraissait trop proche, donc je ne l'ai pas lu. Je pense que peut-être que l'un des secrets, mais que je n'ai pas cherché du tout à faire, mais en écoutant les lecteurs en parler, je me rends compte d'un des secrets de ce livre, c'est qu'il puise à la source de toute lecture, enfin des lectures d'enfants, en fait. De ce qui était... Enfin, des lectures d'enfants quand elles sont... des vraies lectures d'enfants, c'est-à-dire qu'elles vous sauvent, en fait, qu'elles ont une puissance d'enchantement, de sortie complètement de la réalité, d'oubli, quand on voit à quel point les enfants peuvent être complètement absorbés dans un livre, quel que soit le livre, peu importe. Et peut-être le livre puise à cette force d'enchantement-là que moi j'ai connue et qui m'a vraiment littéralement sauvée en étant enfant. Alors après, c'est vrai qu'en l'écrivant, j'ai rencontré il y a quelques... Enfin, pendant que j'écrivais ce livre, j'ai rencontré un écrivain américain qui est publié par mon éditrice qui s'appelle Myriam Anderson. Cet écrivain s'appelle Peter Heller.
J'étais sûre que vous alliez dire ça.
Voilà. Et en fait, il m'a pas dit, je peux pas dire qu'il m'ait directement inspirée. J'ai beaucoup d'admiration pour les livres de cet écrivain. Mais en parlant avec lui, je l'avais écouté parler et je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il disait, on lui demandait comment il écrivait le livre qu'il était en train d'écrire. Il disait, bon, lui habite dans un bled assez sauvage, je sais plus, dans le Montana, je crois, enfin, aux États-Unis. Et il disait que tous les matins, il allait écrire dans un café. Et en fait, il se plaçait mentalement, moi je dirais même organiquement, enfin, s'il fallait ajouter quelque chose, dans le lieu où il avait envie d'être. Il s'y télétransportait, on peut dire, dans sa tête. Et puis, il s'y installait, il écrivait là. Et c'est vraiment comme ça que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'avais cette vision de ce fleuve qui, peu à peu, a grandi dans... C'était presque une sorte d'hallucination. Hein. Je le voyais, moi. Je l'ai même dessiné, parce qu'à un moment, ça devenait un peu compliqué à suivre là, de suivre là, l'amont, l'aval, la géographie de ce fleuve. Donc, j'ai fait un dessin très, très long que j'augmentais. Et donc, j'avais la vision de ce fleuve, j'y allais. C'était presque une sorte de méditation et je regardais ce qui s'y passait, comme j'aurais pu regarder un film, sauf que le film, ce n'était pas un film que moi j'avais vu, même si j'ai vu beaucoup de films avec des fleuves. Mais c'était le film que moi, je me faisais de ce fleuve avec ses enfants et là, je suivais. Bon. Et puis, peu à peu, je disais que je ne crois pas aux intentions, ça c'est vrai, l'inspiration, ça existe, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors après, il faut, comme dirait aussi Stephen King, il faut la forcer parce que le nombre de jours où on n'a pas d'inspiration étant généralement supérieur aux jours où on en a, bon... Donc il faut voilà. Donc comment la forcer ? Ben en allant, en retournant dans sa vision, en y allant, même s'il se passe pas grand chose, en essayant de s'y installer. Et c'était une vision assez bienfaisante en fait. Hein. C'est la vision, c'est l'eau, c'est l'effet de l'eau. Je pense peut-être que ça a ça aussi pour le lecteur, cet effet. Bon, il se passe des choses un peu terribles dans ce livre, un peu effrayantes peut-être, mais en même temps, il y a cette dimension de l'eau que j'ai connue beaucoup enfant dans ce fleuve Corse et qui vous met en contact avec cet élément et qui est très apaisante aussi. Voilà. Donc j'ai beaucoup écrit de cette manière-là. Et puis après, il m'arrivait, comme je suis quelqu'un qui voyage presque pas, il m'arrivait, quand je voyage, c'est dans les livres et dans les films, de relire un livre ou de lire un livre, mais plutôt de voir des films, de fleuves, de regarder ce qui s'y passait. Et sans doute que quelque chose est entré aussi dans mon livre. Hein, par exemple, qu'est-ce qui se passe au delta d'un fleuve le peuple des rizières s'inspire un peu à un moment, il y a un enfant qui meurt parce que la mère qui passe ses journées à ramasser des roseaux ne peut pas le surveiller. Bon, ça s'inspire d'un film italien que j'ai vu avec Sofia Loren, un film des années 50, par exemple, d'une scène de mort d'enfant dans un fleuve. Bon, y a des souvenirs comme ça. Mais il y a des souvenirs aussi parce qu'un fleuve charrie ses propres souvenirs. Pour citer une autre écrivaine américaine que j'aime beaucoup, Laura Kaczynski, qui partage d'ailleurs une traductrice Céline Leroy avec Peter Heller. Les fleuves charrient tous leurs morts, charrient leur. C'est ça qui est très fascinant dans un fleuve. Et on peut se dire que même quand on va se baigner dans une piscine, d'une certaine manière, même là, on y laisse nos souvenirs, on y laisse notre fatigue, on y laisse nos chagrins, on y laisse nos joies, on y laisse nos ruminations. C'est l'effet bienfaisant de l'eau aussi, l'effet hypnotique de l'eau. Quelque chose d'hypnotique dans l'eau. Je pense que je me suis laissée hypnotiser. Je me suis laissée vampiriser par ce fleuve, en fait.
Mais justement, dans l'écriture, on est donc dans l'eau, dans la nature. Il y a quelque chose, on est complètement envoûté, en fait, par la nature du livre, par l'eau, par etc. Et je sais que vous, vous opposez quelque chose... Ça m'a intéressé quand je vous écoutais dans une précédente interview où vous opposiez un sentiment très organique de l'écriture à quelque chose de la pensée. Pour vous, l'écriture n'est pas liée à la pensée.
Non, je pense qu'elle peut produire de la pensée et il peut y avoir une, enfin, il devrait y avoir une profondeur dans les livres, d'autant plus que le sujet de la littérature, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, la condition humaine. C'est toujours ça dont il est question, l'être humain, la condition humaine. Mais pour moi, ça ne passe pas par des idées, ça ne passe pas par des pensées qu'on pourrait résumer. C'est incarné. C'est-à-dire que si ce n'est pas incarné dans la phrase, si ce n'est pas incarné dans ce que le lecteur ressent lui-même, et qu'il renvoie à des sensations, qu'il renvoie à ses propres souvenirs, qu'il renvoie à son corps de lecteur au moment où il lit, ce qui renvoie à l'effet que le livre produit sur lui, ça n'est rien. Ça reste pour le coup comme une feuille d'arbre qui tombe et qui reste en surface du fleuve. Donc c'est pas, pour moi, c'est toujours. C'est très organique, la littérature. C'est organique parce que c'est de la musique avant tout. Ça passe par, c'est un travail de musique, de musicalité, qui consiste à relire tout haut quand on écrit, à entendre la musique. Et si la musique a une justesse, alors ce qui est dit a une justesse. Mais d'une certaine manière, pour moi, c'est une question éthique, hein, presque. C'est-à-dire que On ne peut pas parler de grandes idées morales ou politiques, etc., s'il n'y a pas une justesse de l'écriture. On ne peut pas dissocier les deux. Pour moi, c'est même assez dégueulasse de dissocier les deux. Enfin, dégueulasse, c'est même ridicule, disons, de dissocier les deux. Ça n'a pas de sens. Ça passe par là. Parce que c'est comme un peintre, c'est comme un sculpteur, il y a un matériau. C'est très concret, hein, l'écriture. C'est charnel, c'est concret. On travaille avec ce langage qui ne cesse de nous échapper, qui fuit exactement comme de l'eau, qui nous fuit entre les doigts. Ben, je veux dire... C'est bien connu que les êtres humains n'arrivent jamais à dire et à se dire ce qu'ils voudraient se dire. Et tous les livres racontent toujours cette même tragédie, qui peut être une tragicomédie, hein, qui peut donner lieu à des livres très drôles d'ailleurs. Mais que, voilà, on n'arrive jamais exactement à dire, hein, et la vie n'est faite que de ces séries de malentendus. Et nous écrivons avec ça. Et en même temps, notre tâche tous les matins, c'est d'essayer de plonger dans cette espèce de matériau liquide qui nous fuit. Alors peut-être que là, il me fuyait un peu moins parce que précisément, j'étais dans ce bain-là, littéralement. Et il fallait y plonger le lecteur.
Mais d'ailleurs, vous avez travaillé la langue d'une façon un petit peu particulière à certains moments dans le récit, puisque Mo et Joe, ils ont une langue secrète à eux. Ils sentent une berceuse, une comptine le soir. Et cette langue-là, elle a une signification quand même très forte pour eux.
Oui, je ne sais pas pourquoi je les ai vus arriver. Peut-être parce qu'il y avait je pensais à cet enfant, Moïse, enfin ce bébé qui est recueilli par un fleuve. Je pensais à des figures comme ça qui sont assez mythologiques, en effet. Mais je les ai vus arriver avec leur langue à eux, comme des réfugiés, en fait. Chose que j'ai même, comme des migrants même. Je déteste ce mot parce qu'on devrait dire exilés, comme des exilés, en fait, que nous sommes tous, ou que nous avons tous été à un moment donné de notre histoire. De notre généalogie, mais donc je les ai vus arriver comme ça avec leur langue qui en même temps les berce, quoi. Alors il y a une berceuse que chaque soir le grand frère chante au petit frère, sinon le petit n'arrive pas à s'endormir. Et c'est comme ils n'ont pas de valise vraiment, enfin ils n'ont pas des biens avec eux, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien, ils n'ont presque rien. Ils ont 2-3 petits objets à eux, mais ils ont leur langue quand même. En tout cas, ils ont un bout de langue dont ils se souviennent, qui est leur bagage, leur seul bagage et leur seul bien, en fait.
Oui, et puis, est-ce que ce n'est pas aussi un bouclier face aux autres? Parce qu'à un moment, ils vont accepter de partager le secret de cette langue avec Viv, mais on sent qu'il y a quand même... ils ne savent pas trop s'ils sont prêts à faire ce sacrifice-là, de lui laisser le bénéfice de les comprendre entièrement.
Oui, parce que c'est leur lien aussi. Je pense que ça a à voir peut-être avec cette complicité... qui peut être assez bouleversante qu'ont les frères et sœurs, en fait, les membres d'une fratrie, qui peut être conflictuelle aussi, mais il y a quand même ce lien archaïque, primitif, originel, que personne d'autre ne peut comprendre. C'est comme chaque frère et sœur, même si on a l'impression qu'ils parlent la langue de tout le monde, partagent une langue qui n'est qu'à eux, et qui est cette langue de l'enfance, alors parfois qui s'éteint ou qui ne... à la suite de malentendus, de conflits, etc., de fâcheries, s'interrompt. Mais elle est toujours là, quand même, cette langue d'avant. Et donc, c'est peut-être cette langue-là aussi qu'ils ont et qu'ils n'ont pas envie de révéler à tout le monde. Et puis, c'est un secret aussi.
Pour revenir sur l'écriture, là, c'est une question, on va dire, un peu plus générale. Mais c'est une question vraiment que j'ai vraiment très envie de vous poser, c'est vous avez dit que quand on écrit, on n'est pas sexué, on n'est ni homme ni femme. Et ça m'intrigue énormément.
Entre autres.
Que, oui, mais voilà, mais parce que là, en l'occurrence, vous écrivez ces deux petits garçons, les personnages principaux, ce sont des enfants, ce sont des garçons, etc. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'effectivement, l'écrivain... Enfin, peut se départir complètement de ou sa féminité, ou sa masculinité, ou son âge, ou sa génération, etc., pour écrire un livre. Vous croyez vraiment à ça? Oui. C'est une vraie question. Hein.
Ah oui, oui, moi je pense que... c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps, mais que je ne m'étais pas formulée. Et puis en lisant la correspondance entre George Sand et Flaubert, qui parle beaucoup de ça, et où revient le mot hermaphrodite, ou en lisant ce que dit Colette. Colette dit « Les écrivains sont des hermaphrodites ». Mais aussi bien, Colette, elle a écrit des livres magnifiques sur les animaux. Elle a des passages sublimes sur les chats, par exemple. On peut dire qu'elle est autant un chat quand elle écrit. Et là, pour moi, en effet, c'est... Je crois qu'il n'y a pas de... Comment dire Les questions de genre, elles existent. Mmh. Elles existent dans la société. La société se charge assez tôt de nous les renvoyer à la figure. Enfin, je dis nous, moi et à tout le monde. Des questions de genre, des questions de classe, ces questions-là, voilà. Mais je ne crois pas qu'un écrivain qui vraiment est un écrivain écrive pour avoir une place dans la société. Ou alors, bon, il peut avoir une place dans la société, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être écrivain. Les écrivains, c'est un peu des zombies quand même, à mon avis. Enfin, en tout cas, ils devraient l'être. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont hors de la société. Au moment où ils écrivent, c'est sauvage, l'écriture. L'écriture, c'est une activité sauvage parce qu'on est tout seul, et puis sauvage parce que c'est assez sauvage. C'est quand même assez...
Vous voulez dire que c'est violent ?
Oui, je dirais même c'est sauvage, c'est une forme d'insurrection, c'est antisocial, l'écrivain, l'écriture. Oui, je trouve que ça, c'est assez antisocial comme activité. Alors après, bon, bah, il faut faire semblant aussi, de voilà, montrer sa tête et d'être un être social. Bon, très bien. Mais c'est un jeu, c'est jouer un jeu. Et donc, dans cet espace qui n'est pas social et qui est l'espace du jeu, et qui est l'espace qui a beaucoup à voir avec l'enfance, cet espace-là, les enfants, quand ils jouent, ils sont aussi bien un garçon, une fille, un prince, une princesse, un monstre, un calamar, un train, un nuage. Il n'y a que les adultes, comment dire, un peu bornés, qui s'inquiètent de les voir franchir des frontières de genre qui ensuite sont instituées par la société. Mais dans le jeu des enfants, il n'y a aucune de ces frontières-là. L'écriture, elle revient à cet espace du jeu d'enfant, littéralement. C'est une forme de folie là-dedans. Mais voilà, je pense que c'est ça la matière de l'écriture. Ça ne veut pas dire que tous les livres ont des personnages d'enfants, etc. Mais ça veut dire que c'est réactiver cette croyance, en fait. C'est-à-dire, si on y croit, ça existe. Parce qu'un livre, ça n'existe pas. Si quelqu'un n'y croit pas, ne bâtit pas... Je veux dire, personne ne m'oblige à me lever le matin pour donner vie à une fiction que j'ai rêvée ou que j'ai hallucinée. Sinon, la force de ma croyance que ensuite il y a tout un travail très 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 concret, très artisanal. Je dirais même pour ça, je dis pour moi, c'est pas de la pensée, ça a plus à voir avec une forme d'artisanat, une forme très concrète d'élaboration à travers ces mots qui sont autant des alliés que des obstacles pour donner vie et donner forme à cette croyance là. À cette fiction et à cette croyance. Mais c'est pareil que les enfants, quand ils disent « tu serais, je ne sais pas quoi, et moi je serais, je ne sais pas quoi », c'est la même chose. Donc on peut être littéralement n'importe quoi. On peut être mort, on peut être vivant, on peut être un fantôme, on peut être un personnage de la préhistoire, on peut être une créature marine, on peut être... La forme, c'est la forme de la croyance. C'est la seule forme, en fait. Donc, à partir de là, la question du sexe, elle n'est pas... Après, je pense que c'est très sexuel, l'écriture. Mais au sens très large. Très large. Très... Oui, qui jaillit de manière très, très, très large, très organique. Et... Alors après, les questions de qu'est-ce que c'est qu'un écrivain homme et femme, elles se posent. Mais elles se posent dans la société. Elles se posent dans... La manière dont les écrivains femmes ont été minorés, rendus invisibles, réduites à des sujets encore maintenant, qui sont des sujets de bonnes femmes, comme on le dit même avec une expression très traditionnelle de la misogynie. Voilà, ces questions-là se posent, mais elles ne se posent pas dans l'écriture, pour moi.
Vous parlez de quelque chose de très intéressant, c'est effectivement à partir du moment où on croit quelque chose, ça existe. Et donc pour moi, ça pose effectivement la question de la place de la fiction actuellement, notamment parmi les livres. C'est quoi le pouvoir de la fiction encore aujourd'hui ?
Le pouvoir de la fiction, pour moi, il est absolu. Il est absolu, c'est-à-dire que l'exemple le plus concret qu'on peut donner, c'est l'amour, qui est une énorme fiction. Qui n'est rien d'autre qu'une fiction. C'est une illusion, une fiction. Voilà, et on sait bien que c'est... Alors, ça rend aveugle, ça déplace les montagnes. Enfin, il y a plein d'expressions qui sont associées à ça. Mais toutes sont vraies et toutes ont à voir avec le rôle de la fiction. C'est-à-dire que ça sauve. Ça sauve. Ça sauve du réel et de la société, du réel, de tout ce qu'il faut faire par ailleurs pour survivre. Mais je pense que c'est un pouvoir de salvateur absolu. Et puis, c'est une forme de joie absolue aussi.
Et j'aimerais terminer sur
c'est un pouvoir, pardon, de révélation, ouais, absolue aussi. Mais ça nous révèle à ce que nous sommes, la fiction. Ça nous révèle à ce que nous sommes, en fait. C'est pas juste un... Il y a une dimension, comme on dit parfois, d'évasion et tout. J'ai rien contre. Hein. Je pense que ce qu'on appelle dans la littérature éditoriale américaine les page-turners, moi, je trouve ça très beau comme expression, l'idée qu'on soit obligé de continuer à tourner la page et qu'on puisse pas... qu'on soit captif d'une fiction. Mais ça nous révèle à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une expérience, c'est une vraie expérience, la fiction. C'est rare de faire des vraies expériences, surtout, je trouve, dans notre époque où... beaucoup d'êtres humains sont prisonniers de choix qu'ils n'ont pas faits et la société leur raconte qu'ils sont prisonniers de choix qu'ils n'ont pas faits. La fiction, elle nous rend libre. Elle nous rend libre, en fait. Elle nous rend libre et elle nous révèle à nous-mêmes, en même temps, dans notre liberté. Donc, c'est vraiment la plus grande expérience qu'on puisse faire.
Je pense aussi. Donc, comme je disais, je voudrais terminer avec une citation de Jacques Rivette qu'il fait à Marguerite Duras en 83, où il dit « doit pouvoir être continué ». C'est une formule que j'aimerais mettre à la fin de tous mes films. Est-ce que vous, c'est quelque chose... Enfin voilà, « doit pouvoir être continué ». C'est marrant, moi, ça a vraiment fait écho à la fin du dernier fleuve. Est-ce que parce que pour moi, je sais que vous dites que c'est pas tout à fait un livre d'aventure, mais... C'en est quand même un où on suit pour moi les aventures de Mo et Joe et du peuple du fleuve. Et la fin du livre, elle ne constitue pas vraiment une fin en soi.
C'est très beau comme question. Et c'est vrai que c'est très beau cette phrase. Il disait aussi, je pense que une des choses que Jacques Rivette, le cinéaste Jacques Rivette m'a apprise, c'est que les films, les livres, la fiction, elle commence avant et elle continue après. En fait. C'est-à-dire que ce livre, effectivement, il a commencé avant, bien avant, peut-être même à la nuit des temps, quand ces enfants ont commencé à se retrouver seuls au monde, exilés, sans rien à bouffer, à devoir fuir peut-être leur pays, à marcher sur les routes. Bon. Et puis à la fin, il y a une fin. Alors certains lecteurs voient vraiment une fin arrêtée, d'autres non. Et en même temps, c'est vrai que c'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ce que je savais, la seule chose que je savais, c'était que que font les fleuves ? Les fleuves, ils vont à la mer, ils retournent à la mer. Ça, c'est le destin de tous les fleuves. Donc, je me suis dit, bon, la seule chose que je saurais de la fin, c'est que ça finira avec la mer. Alors, ça finit en quelque sorte avec la mer, d'ailleurs, dans tous les sens du terme, du mot mer. Mais en effet, ça doit pouvoir être continué. Et ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'un livre existe à partir du moment où il est deux, je pense que Jacques Rivette le disait aussi, dans le sens où c'est le lecteur qui finit le livre. C'est-à-dire, moi, je suis... Enfin, je suis convaincue qu'il n'y a pas de fausse lecture d'un livre, il n'y a pas de fausse interprétation. Et ce qui est sublime pour un écrivain, c'est de se dire que chaque lecteur se fait sa propre fin et que le livre continue à vivre ensuite dans le lecteur. Alors après, il y a quelque chose d'assez bouleversant dans cette phrase, c'est cette espèce de désir que les êtres humains ont de ne pas mourir. Quoi. Ça devrait pouvoir être continué. En fait, ça vient de l'anglais, « to be continued ». C'est les feuilletons, il faut que ça continue. Quoi. Voilà. Et on est suspendu. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre aussi comme un feuilleton, en quelque sorte. D'ailleurs, je montrais le manuscrit à une amie en l'écrivant. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était presque comme lui donner un feuilleton, un peu comme les écrivains du 19e siècle qui écrivaient des feuilletons dans les journaux. Et c'est vrai qu'il y avait cette dimension de suspense. Mais pour moi aussi, en plus, comme c'est vrai que je déteste m'ennuyer, je voulais que ce soit un peu haletant, quoi, être suspendu. Et dès que la tension retombait un peu, je relançais un peu comme ça la machine de la fiction. Mais c'est vrai, il faudrait que ça soit... Que ça ne s'arrête jamais.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène Frappa. Merci beaucoup, Hélène merci. Frappa, Le Dernier Fleuve, aux éditions Actes Sud.
Merci.
Merci beaucoup, messieurs.